17 heures, on a moins 3 degrés à Québec. Dégagé ce soir et cette nuit avec un minimum de moins 14. Demain, moins 6, mais venteux. Le refroidissement éolien, moins 19 en matinée, moins 13 en après-midi. Samedi, soleil, moins 5. Dimanche, soleil, maximum de 0. Ça se fait longtemps qu'on n'a pas fait ça.
Oh wow.
Le rock'n'roll a vu le jour dans les années 50. De l'invasion britannique en passant par le prog, le hard rock, le grunge et le rock des années 2000. Du vinyle au streaming, voici l'histoire du rock dans Gravel dans le retour.
On va commencer l'histoire de la musique avec le 78e anniversaire de naissance du guitariste qui a possiblement inventé le heavy metal, Tony Iommi de Black Sabbath. Il a commencé sa carrière comme un guitariste de blues avec Jethro Tull. Pour ensuite fonder Black Sabbath, au départ qui se voulait un groupe de blues. Et on a trouvé des accords et des sonorités un peu plus sombres. Dire qu'il n'y a pas si longtemps, on perdait le prince des ténèbres lui-même, Ozzy Osbourne. Parlant de perte, un 19 février 2022, dans l'histoire du rock, on perdait Gary Brooker du cancer à l'âge de 76 ans. Brooker est le membre fondateur de la formation Procol Harum, qui nous avait donné le classique « A Whiter Shade of Pale » en 1967. Février 2015, on est passé proche de perdre une voix importante du métal. Pas parce que le gars allait mourir, mais le chanteur d'Iron Maiden, Bruce Dickinson, se fait traiter pour un cancer de la gorge. Heureusement, tout a tourné pour le mieux. Quand l'Angleterre aime un groupe, il les aime pour vrai et il n'y a pas de niaisage. Un 19 février 2008, on rend disponibles les résultats d'un sondage chez 11 000 amateurs de musique britanniques et on leur demande « C'est quoi les meilleurs albums de l'histoire de l'Angleterre? » Numéro 1 et numéro 2, Oasis, avec Definitely Maybe et What's the Story, Morning Glory. Pour ceux qui se demandent, c'est un sondage qu'on avait effectué pour le magazine Q et les magasins de disques HMV, terminant le top 5 des albums britanniques préférés de l'Angleterre. OK Computer de Radiohead au numéro 3, Revolver des Beatles au numéro 4 et l'album éponyme des Stone Roses au numéro 5. I said maybe, I don't really want Le 19 février 2004, c'est la date où la joke a passé proche de devenir une vraie pub.
Bound by wild desire.
La succession de Johnny Cash bloque une campagne publicitaire qui devait utiliser la chanson Ring of Fire pour faire la promotion d'un médicament pour les hémorroïdes.
Ça aurait été terrible.
L'idée était backée par celle qui a co-écrite la chanson Ring of Fire, Mel Kilgore.
Avait besoin d'argent?
Possiblement, alors qu'elle a co-écrit cette chanson-là avec l'épouse de Johnny Cash, Joan Carter Cash, et c'est vraiment la descendance de Johnny Cash qui s'est opposée à dénaturer la base d'un classique de la musique.
Comment?
Et ça brûle, brûle, brûle dans cet anneau de feu. En 1995, on a assisté seulement au deuxième concert à Beijing d'un groupe qui venait de l'Ouest. Le premier, ça avait été George Michael en 1984. Quel artiste a été le deuxième à se produire du côté de Beijing?
On est en quelle année?
On est en 1995.
Hey, je ne sais pas du tout.
Indice? C'est un groupe qui a été très, très, très populaire, très, très, très pas longtemps.
Vas-y. Oh, ouais,
Roxette.
J'aurais jamais deviné.
Moi non plus. Toujours en 1995, un 19 février, on assiste à un des mariages les plus quétaines de l'histoire de l'humanité. Le batteur de Motley Crue, Tommy Lee et Pamela Anderson, à l'époque de sa célébrité Baywatch, se mariaient sur le bord de la page en bikini blanc.
Ouais.
Bikini blanc?
Ouais.
4 jours seulement après avoir appris que leur vidéo personnelle où on s'amusait joyeusement pas de vêtements, avait commencé à circuler à grandeur de la planète.
Hey, elle était en bikini blanc, puis lui était en long boxeur, long short. Hein. La grosse classe.
Dans le temps, les enfants, on trouvait ça presque hot.
Ça t'inspire-tu, Audrey?
Hey, tellement pas, là.
Ça coûte pas cher pour le mariage, par exemple.
C'est vrai. Pas besoin de robe de mariée. T'as juste à sortir ton bikini blanc.
C'est sûr.
Tragédie en 1980, alors que le chanteur DC-DC décède un 19 février. Bon Scott a bu jusqu'à sa mort, nous dit l'autopsie. Il a été retrouvé sur le siège du passager de la voiture d'un ami qui était stationné. Le coroner nous dit qu'il a bu jusqu'à en mourir en suffoquant dans son propre vomi. En 1977, la première chanson écrite par Bruce Springsteen se retrouve en tête des palmarès. L'ironie, c'est que c'est pas lui qui la chante. Manfred Mann's Earth Band se retrouve au numéro 1 avec Blinded by the Light, une chanson écrite par Bruce Springsteen qu'il avait endisqué 2 ans auparavant sur son premier album. Voulez-vous entendre la version de Bruce Springsteen?
Go! J'aime mieux la reprise.
Les deux sont pas mauvaises, par exemple. daddies with an earshot, save the bus shot. C'était sur l'album Greetings from Asbury Park. Ça fait le tour de l'histoire de la musique de ce 19 février. On revient, ce sera pas long. Il y a 7 boutiques animalerie Dino dans la région de Québec et il y a plus de 7500 articles en stock. Le plus grand choix de la province. Une entreprise familiale depuis plus de 35 ans. Born in Quebec City, Dino vous offre ce qu'il y a de mieux pour votre animal de compagnie, que ce soit un chien, un reptile, un poisson ou encore... un chat! On les aime assez, des chats. Il y a une boutique en ligne également, dino.ca, avec plus de 4000 articles disponibles. Livraison partout au Canada par Poste Canada le lendemain pour les villes-centres. Également disponible via Uber Eats pour une livraison en moins de 2 heures. Pas pire, hein? Les choix et les possibilités pour vos animaux de compagnie sont pratiquement infinis. Chiens, chats, poissons, avec des spécialistes de l'eau salée, rien de moins. Oiseaux, rongeurs, reptiles et ainsi de suite. Visitez dyno.ca pour voir tous nos autres spéciaux du mois. Dyno.ca.
Chez Laval Volkswagen.
Gênez-vous jamais dans ce temps-là, hein? Il est 5h17, vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour. Denis qui nous écrit, un autre Denis. Hello à vous trois.
Denis qui s'auto-écrit.
Quand
tu veux bon prouver ça. Un point qui dit, il s'envoie lui-même un message.
Denis qui nous écrit, hello à vous trois, je veux juste dire merci à Denis, ça c'est moi, de nous avoir fait découvrir Angine de poitrine. Ils sont irrésistiblement fuckés, comme on dit par chez nous. On n'est pas les seuls à les avoir découverts dans les dernières semaines. Ils ont annoncé dans les 24 dernières heures 2 choses. Premièrement, ils vont faire leur premier show à New York, dans le quartier Soho, dans une légendaire petite salle de spectacle qui accueille des artistes indépendants depuis des décennies, ce que je trouve extraordinaire. Et l'autre chose, c'est que Angine de poitrine va être à l'Impérial au mois de novembre prochain. Il ne reste plus de place. Le show est officiellement sold out. Et pendant ce temps-là, les millions et les millions de visionnements à la grandeur de la planète se poursuivent. Bon, après ce petit moment de joie, parlons de chagrin, parlons de cœur brisé, ouf, parlons de la médaille d'argent de l'équipe de hockey féminine du Canada, Max Larouche.
Oui, puis en même temps, si on veut voir le verre à moitié plein, tout le monde pensait qu'on allait manger une reine, puis ouais, c'est pas arrivé.
C'est pas le temps de le dire, là, ouais, je pense. Là, j'ai vu l'entrevue avec Marie-Philippe Poulin.
Ah,
oh,
c'était triste, oh.
Écoute,
ça,
les larmes qui coulaient, ouais. ça
s'arrête comme pas.
Ouais, non, c'est sûr. Puis peut-être qu'elle... Tu sais, moi, personnellement, je pense qu'à 34 ans, c'est sûr qu'elle est encore là dans 4 ans,
ah ouais?
À 38. Ben,
moi, je pense que c'est ses derniers, là.
Ben, c'est ça, sa réaction me laisse comme croire que peut-être qu'elle, elle sait que c'était ses derniers. Mm. Mais tu sais, elle est tellement encore bonne que je pense qu'elle est encore capable d'en donner pour être, tu sais, sans être encore aussi dominante à 38 ans. Je pense qu'elle peut encore être là à 38 ans. Mais tu sais, c'est sûr que quand tu mènes 1-0 une bonne partie du match, puis tu finis par l'échapper en prolongation, mais c'est sûr que ça vaut pas grand-chose mes belles paroles de « vous avez bien fait ça, les filles ».
J'adore le 3 contre 3. Je trouve ça spectaculaire.
Tu vas dire ce que, ouais.
En saison régulière.
Oui, oui.
Gagner une Coupe Stanley sur du 3 contre 3, j'aurais de la misère. Je suis peut-être vieux
c'est
jeu.
C'est insultant.
Je trouve ça c'est parce que tu changes la game.
C'est vrai.
La game
c'est
de
moins
hockey,
pire que des tirs de barrage.
Oui.
Mais c'est ça.
Tu changes la game pour la période de prolongation. Moi, c'est quelque chose qui m'agace énormément. Si le hockey se jouait 3 contre 3, pas de problème. Mais là, tu passes de 5 contre 5 à 3 contre 3. Et en passant, j'avais la même réflexion hier puis la même réflexion ce matin en regardant le match de hockey féminin entre la Suisse et la Suède.
L'objectif de changer la game, j'imagine que c'est pour éviter qu'on passe la nuit au complet à regarder du hockey.
Ça ferait quoi? Tu sais, en quart de finale, en demi-finale, je m'en fous.
Quand
en
ben
finale...
même, quand ben même que la game serait pas finie là. Là.
Non, oh, c'est content.
Ben oui. En finale, ça devrait être du 5 contre 5. Des 20 minutes. Il y aura 4, 5, 20 minutes de plus, je m'en fous. Encore des finales, puis en demi-finale, je m'en fous. Là, ça sera du 3 contre 3, puis après des tirs de barrage, je m'en balance. En finale, que ce match-là qu'on a eu tantôt se termine de cette façon-là, ça fait mal puis c'est poche.
J'espère juste que vous allez être conséquent et dire la même chose si le Canada de hockey masculin gagne en période de prolongation à 3 contre 3 contre les États-Unis dimanche.
Ben, c'est sûr que oui, parce que oui, dans le sens où on va être quand même content de la victoire, là, on va pas s'empêcher d'être content si on gagne en prolongation à 3 contre 3, mais le discours resterait le même, en effet. Ça devrait être du 5 contre 5, la game devrait se jouer de la même façon.
J'ai trouvé que l'équipe canadienne avait bien contenu l'offensive américaine, mais qu'à un moment donné, à force de frapper, ça allait craquer à quelque part, puis c'est un peu ce qui est arrivé en fin de match, je pense.
Exact, puis même avant en deuxième, des bouts, ça allait vite. Puis, tu sais, c'est drôle parce qu'en première, je trouvais que le jeu allait mollo, puis que ça allait pas vite. Là, après le match qu'on a eu hier, Canada-Tchéquie, ça patinait. Puis, je sais pas si c'est juste le fait de s'habituer au hockey avec les femmes, puis que tu t'habitues à ce rythme-là, ou si le jeu a vraiment gagné de la cadence.
Je pense que la nervosité fait en sorte que tu veux pas faire la première erreur de cette game-là.
Ouais.
Puis ça fait en sorte, tu sais, comme deux boxeurs qui s'étudient là.
Parce que la
début
première,
d'un
je
match,
l'ai trouvé
là.
Pas. Je trouvais ça, un, ça allait pas vite, mais deux, des erreurs mentales. Tu sais, des joueurs qui coupent en avant de leur net. J'ai même pas de cheveux, puis sont devenus blancs. puis je suis pas le coach non plus. Des passes à personne, des passes à l'aveuglette. Mais en deuxième, ça a pris du rythme. Mais la mauvaise nouvelle pour le Canada, c'est que c'est les Américaines qui ont pris plus de rythme. Puis on s'en attendait, sont plus jeunes, sont plus rapides. Puis ça, c'est sûr qu'à partir du moment où tu commençais la prolongation à 3 contre 3, ben, bon, il y en a qui disaient Marie-Philippe Poulin va scorer, c'est sûr, on est correct. Mais
t'es-tu à 100%? Elle a eu une blessure un peu plus tôt.
Ben non, j'ai hâte de savoir t'es dans quel état, là. Mais de l'autre bord, tu sais, t'essayais d'y aller logiquement, là. L'équipe américaine avait bien plus de chances de gagner en prolongation. C'est plate pour la défenseuse, la joueuse de défense qui s'est faite shifter.
Oh là là!
Tu veux pas être cette femme-là présentement, mais en même temps, ça peut tellement jouer. Là, ça se joue là-dessus. À la base, en fait, on n'aurait même pas dû avoir de prolongation parce que le 2 minutes qui a été callé aurait dû être un 5, puis ça aurait été un 5 minutes si ça avait été en première, si ça avait été en deuxième. Je suis persuadé de ça. Là, cette mise en échec dans le dos-là a été callée comme juste un 2 minutes parce qu'il restait à peu près 5 minutes à la game.
C'est quoi, c'est Ambrose qui retournait à la chambre de mémoire?
Ouais, mais tu sais, c'est... Fait que c'est un call d'arbitre. Peut-être que les Américains seraient revenus pareil. On le sait pas, on le saura jamais, mais c'est plate d'avoir ça en tête de... Ça aurait dû être un 5 minutes.
Plus tôt dans l'émission, j'ai fait référence, Max, à une conversation que tu as eue dans le Point de Max avec l'entraîneur de
Pascal
l'équipe
Dufresne.
Oui, il est l'entraîneur de l'équipe de hockey féminine de l'Université Laval.
Oui, celle qui s'en vient, là, qui est en train d'être mise sur pied puis qui va commencer à jouer dans les prochains
mois. Notre espoir des prochains Olympiques, c'est
en quelque sorte.
Peux-tu résumer c'était quoi son point sur peut-être les erreurs qu'on a faites en préparant l'équipe olympique canadienne?
Ben, en fait, c'est qu'on n'a pas voulu faire de place à la jeunesse. Si je le résume très rapidement, puis c'est entre guillemets rassurant comme explication. Parce que, tu sais, j'ai voulu faire ça, j'ai demandé, OK, mais là, ce que tu m'expliques, c'est que les bonnes jeunes joueuses, elles existent au Canada, sont là, on aurait pu les préparer puis les amener. Il dit oui, mais on a décidé de garder des. Tu sais, celles qui sont là année après année dans les compétitions internationales, qui sont aux Olympiques depuis au-dessus de 10 ans.
Ont dominé leur sport pendant un bon nombre d'années.
Il y en a qui n'auraient peut-être pas dû avoir leur place. Mais on a pris la décision de laisser, puis son nom m'échappe, mais il y a entre autres une jeune joueuse de défense qui, semble-t-il, est spectaculaire. Il y en a qui en parlent comme la Cal Makar de la défense chez les Canadiennes.
Elle aurait dû être là.
On l'a laissée à la maison. Fait que là, c'est de peut-être apprendre de cette défaite-là, puis de commencer là à préparer ces jeunes-là pour dans 4 ans, parce que c'est ça que l'autre pan qui m'expliquait, c'est que les Américaines, depuis 4 ans, ben les athlètes qui vont amener ou qui vont peut-être amener, ben ils préparent. Puis ils ont amené beaucoup plus de joueuses à leur camp de sélection que le Canada. Le Canada, là, savait déjà être qui partait en Italie. Les États-Unis ont laissé la chance aux jeunes de se prouver. Puis il y en a qui se sont prouvés puis qui ont fait l'équipe. Puis ça a donné du 109 puis ça a donné une médaille d'or.
Demain, 10h40, le Canada masculin et la Finlande s'affrontent. Même gardien, même formule, Sidney Crosby?
Sidney Crosby, on ne sait pas. J'ai vu passer, puis je ne sais pas à quel point c'est fiable, mais ça a l'air que demain, il essaierait de s'entraîner, puis il verrait comment ça file, puis qu'il pourrait essayer de jouer.
OK.
On verra. Mais sinon, ben, Nick Suzuki qui risque encore une fois d'avoir un plus grand rôle dans l'alignement de comme centre shutdown là, pour contrôler les bons joueurs adverses. Puis il y en a du punch en attaque chez la Finlande. Là où le Canada va avoir l'avantage, c'est la profondeur en attaque, mais surtout la profondeur en défense. Chez les Finlandais, là, tu vas devoir exploiter les deux troisièmes duos de défense, puis c'est probablement là que la game va se gagner.
Si Crosby joue pas, c'est sûr que c'est McDavid qui a le C?
Ouais, moi je dis.
J'en vois pas d'autres.
Ben, il y en a qui pensent que ce serait McKinnon, mais moi, la façon de jouer de McDavid depuis le début du tournoi, il n'y a aucun doute dans ma tête.
Est-ce que la Finlande est une meilleure équipe que la Tchéquie?
Oui.
Oui, OK.
Oui, mais c'est une équipe qui me fait moins peur que la Tchéquie. Parce que la Finlande, c'est une meilleure équipe au niveau du talent, mais le Canada va battre n'importe qui si tu joues sur le talent. La Tchéquie, c'est une équipe, et on l'a vu, qui a failli nous battre en jouant robuste, en nous faisant peur avec le gros Ratko Gudas. La Finlande pourra pas. La Finlande est moins équipée pour jouer ce type de match-là. Okay. Fait que rendu là, talent pour talent, c'est sûr que tu prends le Canada.
De l'autre côté, est-ce qu'on pourrait avoir une surprise? Parce que la Slovaquie, avec Juraj Slafkovský, ont eu un début de tournoi qui a été pas pire pantoute, là.
Mais encore une fois, la profondeur des États-Unis. Puis c'est pour ça que on rêve à la finale de Canada-États-Unis de dimanche, parce que c'est deux équipes tellement profondes qui ont quasiment pas de faille, qui ont ben, peut-être le Canada devant le filet. Mais encore là, combien de fois on a remis en doute Jordan Binnington pendant les Quatre Nations cette année, puis encore fait des gros arrêts hier contre la Tchéquie. Fait que tu sais, on peut-tu encore parler d'une faille? Il y en a qui vont toujours pas parce qu'il est pas toujours chic, là, mais il est fait les arrêts. Fait que non, c'est ça, je pense pas. Là, les États-Unis sont... Il y a trop de profondeur dans ce club-là. Fait que ça va être le fun de voir Juraj Slafkovský aller là, puis essayer de le voir essayer de traîner ce club-là sur ses épaules comme il le fait très bien depuis le début du tournoi. Mais je vois pas de surprise.
Ça, c'est demain après-midi pendant notre show là, qu'on va être en mesure de suivre le match.
Vous allez pogner la fin,
Génial, génial. Hey Max, pendant que t'es là, y a-tu eu d'autres médailles outre la médaille d'argent de hockey
pas
féminin?
Aujourd'hui,
pas aujourd'hui, hein?
Non.
Sais-tu ce qu'on devrait faire en hockey? On devrait compter chaque médaille pour chaque joueur. Il me semble qu'on ferait un grand boost par en avant pour le Canada quand on en gagne.
J'adore l'idée.
Ouais, c'est à réfléchir. Max, pendant que tu es là, je veux que tu nous fasses un petit résumé des spéculations que tu avais ce matin sur la possible programmation principale du Festival d'été édition 2026. Parce que là, on commence à avoir des dates de tournée et des dates de festival pas trop loin d'ici.
Oui, bien, dans les dernières heures, c'est le Summerfest de Milwaukee qui a partagé sa programmation. Puis le Summerfest partage souvent quelques noms, quelques têtes d'affiches même avec le Festival d'été. Fait que là, c'est sûr que la programmation devrait sortir dans les... Ben, en fait, va sortir dans les prochaines semaines. Maintenant, ça va-tu être 1, 2, 3, 4 semaines? Ça, c'est ça qui reste à voir. Mais on est vraiment... On entre dans la période des spéculations. Puis il y a des noms intéressants là, du côté du Summerfest à Milwaukee. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un festival qui se fait pas comme le festival d'été, là. C'est sur plusieurs fins de semaine. Fait que t'as 18-20 juin, 25-27 juin, 2 et 4 juillet.
C'est quoi les plus gros noms que t'as sur cette feuille-là?
Le nom de Muse m'intéresse beaucoup.
Muse qui serait à son deuxième passage au festival.
Oui, mais le premier commence à dater. C'était en 2017. Puis souvenez-vous, il était arrivé très tard. Ça n'avait pas été le meilleur show de Muse. Il y avait eu des problèmes de transport parce qu'il y avait des orages. Là. Ça avait été un show qui avait été correct, mais pas à la hauteur de ce que Muse nous donne d'habitude.
Ils n'ont pas l'air d'avoir vraiment d'autres shows. T'sais, le calendrier là, pour Muse, là, les dates de disponibles, il y en a en masse. Fait qu'il soit dans la fin de semaine du 2 au 4 juillet, qui est la semaine avant le FEC, à Milwaukee, qui est pas trop loin. Je trouve ça très encourageant. Il y a Jelly Roll aussi qui va être là. Puis c'est un nom que j'avais déjà ciblé parce qu'il fait une tournée en première partie de Post Malone dans des stades. En passant, Post Malone est aussi au Summerfest, mais on vient de l'avoir, fait qu'on va se calmer. Mais Jelly Roll, entre des dates de la tournée de stade avec Post Malone, il fait quelques festivals. Puis il y aurait des belles disponibilités pendant le FEC. J'ai un bon feeling pour Jelly Roll.
Il a trippé à Québec, lui, au Centre Vidéotron.
Je pense que oui.
Un gars de grosse crowd, ça ferait un gros show de plein. Des noms de cette catégorie-là, t'en as-tu d'autres?
Ben, il y a Ed Sheeran, qui va être au Summerfest de Milwaukee.
Hey, ça serait gigantesque.
Es-tu déjà venu, lui?
Il est venu au Centre Vidéotron. Il n'est jamais venu au Festival okay. des Jeux de Québec.
Okay. C'est un des noms les plus demandés année après année. Là.
Ça, c'est le gars qui joue dans Harry Potter là, avec Harry puis Hermione.
T'as tout compris. C'est Ron.
Tout le monde le sait, il n'y a rien qu'un roux dans l'univers.
Ouais. Ouais, c'est ça. Il a fait des jokes là-dessus.
Ah, imagine-toi si le non-binaire avait été roux.
Ben, il est peut-être, on le saura jamais, il n'y a pas de cheveux.
Qu'est-ce qu'elle allait faire chez le coiffeur? Pas de cheveux, hein?
Bonne question.
T'es plus à même de nous répondre.
J'y vais pas.
Par contre, pour Ed Sheeran, mes amis du site 99Scène qui sont très à la coche là, sur les différentes rumeurs de fake et tout ça, nous disent qu'il faudrait possiblement déjà pensé à oublier ça.
OK.
Que,
il doit coûter cher en plus. Là.
Ouais, non, c'est ça. Fait que, mais si le Summerfest est capable de se le payer, pourquoi pas? Il y a Megadeth qui va être là.
Tournée d'adieu.
Du Summerfest. On sait qu'ils sont à Québec dans le prochain mois au Centre Vidéotron. Ça ferait-tu une tête d'affiche de plaine? Ça ferait-tu une tête d'affiche de petite scène? Une double tête d'affiche de plaine avec quelqu'un d'autre?
On a vu ce que ça a donné Slayer pour leur tournée d'adieu. Je comprends que Megadeth s'en vient au Centre Vidéotron.
C'est vrai, hein?
Je me trompe-tu?
Ouais, c'est dans le prochain mois.
Ouais. D'ailleurs, la pochette, pas la pochette, mais le poster de la portion canadienne de la tournée de Megadeth avec l'orignal, c'est écœurant, là. Mais si on est capable d'aller chercher, je sais pas, au moins un ou deux autres noms du Big Four du métal, mettons, ça peut peut-être être le fun. On peut-tu, je sais pas, moi, mettons que tu réussis à accrocher Metallica par l'oreille d'en arrière, là, puis que t'as Megadeth, puis t'as Metallica, puis que tout le monde fait Ride the Lightning ensemble, là.
Et que j'aime tes ambitions. Hein?
Hey, un show d'adieu,
c'est
là.
C'est-tu beau, le rêve, ouais, Denis, hein?
Dans le temps, okay, dans la meilleure période du festival d'été, avant que d'autres festivals d'envergure naissent en Amérique du Nord, on avait le droit de rêver à ces choses-là, parce que souvent, c'était des groupes en pause, qui n'étaient pas en tournée de festival, qu'on réussissait à avoir. La première fois qu'on a eu Metallica, c'est dans ce genre de circonstances-là, puis il y en a plusieurs autres. Là, on est rendu avec ce qu'on appelle un beat de festival d'été en Amérique du Nord, Ottawa, Milwaukee, puis ainsi de suite. Donc, c'est des bands actifs qui ont plus de chances de venir nous voir.
Les tournées de stade sont tellement trop payantes pour les artistes. T'sais, moi, j'ai vu Noah Kahan, que je voyais beaucoup cette année au Festival d'été de Québec. Je trouve que ça serait logique qui serait rendu là. Il a annoncé une tournée de stade, puis je checkais les dates, puis tabarouette, il était à Boston, au Fenway Park, avec plein de dates autour de libre. Je me disais, c'est sûr qu'il passe au FEC. Là, c'était pendant le FEC.
Puis là,
il a ajouté 3 date au Fenway Park, il a sold out 4 fois le Fenway.
Fait que je pense pas que ça arrive.
Il reste des dates pendant le FEC, cela dit, moins nombreuses.
Mais c'est-tu confortable pour un artiste d'être capable de s'installer à la même place pour autant de dates, puis c'est payant pour le promoteur?
Y a-tu d'autres noms intéressants pour la gang de Boulevard qui pourraient se pointer au festival d'été selon le Summerfest de Milwaukee?
Dans les plus petits noms des Gin Blossoms, peut-être pour certains, Soul
Asylum.
C'est parce que tu l'as massacré ce matin. Puis
je l'ai pas massacré, j'ai dit Asylum.
C'est Soul Asylum.
C'est pas ça que j'ai dit?
T'as dit Soul Asylum.
Non, j'ai dit Soul Asylum.
Ouais, c'est pas c'est mieux. C'est
ben oui, mais au moins, cite-moi comme faux.
Oh mon Dieu, Seigneur, cet enfant-là. Ouais,
le pire, c'est que j'y écris, tu sais, juste pour l'avertir, puis il me répond: ah, c'est beau, je vais le savoir si un jour j'ai renommé ce nom-là dans ma vie.
Non, mais attends.
C'est vrai que
pas,
sur le Silent, ça a déjà été gros,
je te l'ai pas dit sur ce ton-là.
C'est tabouin. Je l'ai lu sur ce ton-là, ben, ça,
ben,
je peux te le dire.
Je m'excuse parce que c'était vraiment juste un OK, ben, je pense pas redire ce nom-là, mais merci. Mais là, finalement, il a fallu que je leur dise, puis
hey,
je me souviens.
Une vidéotrice d'une génération, toi. Des enfants disparus pis tout.
Hein, oui. Je fais mon deuil de la venue de Ghost encore une fois cet été, la formation suédoise, qui a annoncé qu'ils prenaient une pause indéfinie. Ils n'ont pas arrêté, eux autres, hein, le cycle tournée, album. Et,
Fait le tour des personnalités de l'Église aussi.
Oui. Fait qu'on a pas mal confirmé en entrevue qu'on prenait une pause de durée indéterminée pour la formation Ghost. Puis étant donné que Ghost est un gars tout seul avec des musiciens de studio qui ont plein de contrats ailleurs, c'est pas le genre de band que tu peux aller chercher dans le milieu d'un break. Un gars est en Suède, l'autre est à Los Angeles, puis l'autre est en tournée avec un autre band. Je comprends que tu peux mettre n'importe qui en dessous des masques en robeur, là. Mais
c'est ça prend le talent, par exemple?
Ouais, il y a un petit peu de cela aussi, effectivement.
Colosse nous écrit, est-ce que ça se pourrait rêver à Nine Inch Nails? Pour l'instant, il n'y a rien à l'horaire à partir de mars.
J'en rêve, ils étaient à Montréal lundi, mais je crois.
Pas eux qui ont été annoncés au Vans. Non, c'est un autre groupe avec qui, Ice Nine Kills.
Moi, là,
je mélange les noms de groupes
ouais,
de ce temps-là.
C'est vraiment pas la
même. Oui, mais c'est
chose.
Des mots, c'est trois
un
mots qui se ressemblent.
Un autre texto qui rentre, c'est « Poppy est à Montréal le 13 juillet. Est-ce que ça se pourrait, le rien, le 12 ou le 14? »
Ça, quand j'ai vu son annonce de tournée, j'ai fait « Yes, je vais aller la voir à Montréal. » Et là, j'ai vu que c'était pendant le FEC.
Convaincu qu'elle sera en première partie de Quelqu'un sur les plaines.
Ça ferait du sens.
Convaincu. C'est le genre d'artiste que les... les gens du Festival d'été doivent apprécier particulièrement.
Un autre nom que je pense qui pourrait peut-être être là, puis on en parlait un peu, Max, puis moi, ce matin, mais Alex Warren, il était là à Phono en septembre dernier, vous me direz, qui est la même gang, là, c'est Bleu Feu. Mais justement, je me demande si c'est pas un double booking qui peut bien se faire, Alex Warren, qui a quand même eu la chanson la plus écoutée de 2025, puis qui continue de monter.
Qui est au Summerfest. Puis ça ferait beaucoup de sens, mais s'il vient au FEC, il y a comme une date de libre, puis il est à Montréal pendant le FEC, mais il y a comme une date de libre, puis s'il vient au FEC cette date-là, c'est comme 5 shows en 5 jours, avec beaucoup de voyagements, qu'on peut prier, mais...
Je pense que le festival d'été se doit de donner la deuxième scène un soir à angine de poitrine, sans aucun doute, dans ma tête.
Ils sont pas full occupés, ça, peut-être?
Ils sont full occupés, effectivement. Il y a la France d'un côté, les États-Unis de l'autre. Mais l'an passé, écoute, ça fait même pas 7 mois, il était à Place Diouville, un show gratuit qui a rempli non seulement Place Diouville, mais tout ce qu'il y avait aux alentours.
Tu vois, le 3 juillet, ils sont au Festivois de Trois-Rivières. Oui. Puis le 18, ils sont du côté de Toronto.
De la belle passe.
Bon, mon Spotify est installé.
Il est écœuré que tu joues en jeune de poitrine, t'as atteint un quota.
Je suis plus en mesure de vous faire entendre quoi que ce soit.
Un nom qui revient énormément, puis encore là, je salue les gars de 99.5, mais The Lumineers, ça a l'air que ce serait un lock. Comme okay. Une des têtes d'affiche. Là.
Ça serait un deuxième passage au FEC.
Oui, puis il y avait, je pense que des deux côtés, et de l'organisation et du groupe, on avait beaucoup aimé ce que ça avait donné sur les plaines.
Tellement qu'ils étaient revenus par la suite au Centre Vidéotron. On était tellement nombreux à être retournés les voir pas si longtemps après. Puis ils savent bien travailler une foule, c'est assez agréable.
Puis j'ai envie d'essayer une première prédiction de soirée complète des plaines, OK?
OK.
De Lumineers. Il oui. Y a Dead Cab for Cutie. Qui pourrait être la première partie qui est à Toronto dans le coin du FEC.
Ça prend une visite au FEC.
Ça serait excellent. Excellent comme excellent, là, oui. Mais leurs plus belles années sont derrière. Tu peux pas leur donner une scène principale à eux tout seuls.
Avant de les Lumineers.
Oui, très bon pic.
Tu vois, moi, je disais la petite scène en lead. Fait que...
C'est quoi la toune que j'aimais de... Oh, oh, oh,
I will
c'est
follow you into the dark.
I will possess your heart.
Bon, aussi. Un petit côté prog dans cette chanson-là qu'il vient de chercher. Hein?
Oh,
et
oui.
Pour compléter la soirée, tu sais, le premier artiste, là, je parle un Lord Huron, qui est aussi dans le coin, dans ces environs-là, qui a une énorme toune avec The Night We Met.
Avec la série Netflix.
Ouais, sur le 13 Reasons Why.
Ouais,
je trouve que ouais, c'est mon cas. J'essaye un tour de chapeau, un 3 en 3.
C'est un beau fit, en tout cas. Les trois bands ensemble, c'est sûr que c'est un bon fit. Va te donner un 2$ si tu gagnes la trifecta.
Ça vaut plus que 2$, un 3 en 3.
Un vieux 2$ en papier, là.
Non, mais. Hein.
Ah, va te donner un high five aussi, le fatiguant.
Une poignée de main.
Puis tu me rappelleras comment ça se dit Soul Asylum.
Asylum.
Soul Asylum. Hey, merci, Max.
C'était un quit interrompu, cette affaire.
Qu'est-ce que t'as fait là?
J'ai fait une mauvaise manœuvre.
La panique qui a pogné.
Tout est beau. Je voulais juste dire merci.
Je voulais
prendre le temps de le faire comme il faut. Merci, Max.
Merci, Max. Salut, Max.
À demain.
Au revoir, Max.
Là, c'est le temps de peser sur le piton.
Besoin de plus d'espace?
6h moins quart. Il y a encore un peu de circulation sur les routes de Québec, Audrey.
Capitale direction Est entre Robert-Bourassa et Laurentienne. Et l'entrée des ponts Henri IV Sud à partir de chemin Sainte-Foy jusqu'au pont Pierre-Laporte. Pour le reste, ça roule. Autre chose? 88-971-102 texto.
Ce n'était qu'une question de temps, mais Amazon est désormais la plus grande entreprise au monde en termes de chiffre d'affaires, détrônant Walmart. Après 13 années consécutives en tête du classement, en 2025, Amazon a enregistré des ventes de 717 milliards de dollars US contre 713 milliards pour Walmart, qui dominait ce palmarès depuis 13 ans. C'est avec la diversification des activités d'Amazon qu'on a réussi à prendre l'avantage, outre les ventes en ligne et en magasin, qui ont totalisé 464 milliards. L'entreprise tire une part croissante de ses revenus d'autres secteurs stratégiques. On parle de la division Amazon Web Services, 129 milliards de dollars. C'est une branche que moi, je connaissais pas.
C'est le nuagique, entre autres.
Ouais, qui offre des services d'informatique info nuagique, de stockage de données d'intelligence. Amazon qui a aussi ramassé 100 milliards de dollars US combinés grâce à la publicité en ligne et aux abonnements Prime. On sait qu'ils ont développé plusieurs séries à succès dans les dernières années.
L'abonnement Prime est double. Puis à une certaine époque, il y avait des rumeurs à l'effet que Walmart aurait essayé de les compétitionner, aurait voulu se développer un service de diffusion en ligne. Puisque quand tu es Prime, oui, tu as les livraisons qui vont être plus rapides, mais tu as l'accès à leur catalogue. Puis si à l'origine, c'était marginal, dans les dernières années, ils ont réussi à avoir de gros incontournables qui font que, un peu à la manière de Netflix, les gens se désabonnent plus de ça. Parce que soit tu magasines, soit tu regardes la télé, mais c'est rendu, tu renouvelles annuellement. Il n'est pas très cher en plus comparé aux autres quand tu le compares.
Ils ont pris un gamble aussi parce qu'ils ont embarqué la publicité.
Oui.
Et tout le monde aurait pu dire « Hey, on n'embarque pas, là. » Puis finalement...
Toi, as-tu payé l'extra ou t'as
non,
les pubs?
Non, 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 non.
J'ai les pubs, ça me dérange
c'est
pas.
C'est ça, j'ai les pubs. Je trouve qu'on a bouclé la boucle, par exemple, là, quand tu recommences à avoir des pubs sur des services de streaming, c'était la raison pour laquelle on a tiré sur le fil du câble à un moment donné pour pas avoir de pubs. Puis quand t'écoutes, mettons, le nouvel épisode d'une nouvelle série, Fallout, saison 2... Des pubs, il y en a pas mal.
Ah ouais, hein?
Ouais,
souvent, ce qu'ils faisaient, c'est qu'il y avait une entreprise qui te faisait une pub au début puis qui disait « Hey, l'épisode est présenté sans publicité grâce à nous. » Je suis comme « C'est parfait, donne-moi ton 45 secondes, je vais bien vivre avec. »
Mais là, on a commencé à couper, là, tu sais, dans un épisode, des fois, de 50 minutes, tu peux avoir 3-4 blocs pubs.
Puis tu sais, dans tout ce qui est le volet magasinage d'Amazon, puis je comprends que dans leurs chiffres, ils ont la version en magasin, parce que dans certaines grandes villes, tu vas avoir des petits commerces d'Amazon qui vont être disponibles. Mais le côté facile d'utilisation de leur foutue plateforme de magasinage, quand tu embarques là-dedans un soir de déprime, là, t'es capable de te créer des besoins. C'est pire que d'essayer de sortir d'un casino.
Hey, ma liste est rendue à 1200 $. Je check out pas, là, mais j'ai des affaires en tabarnouche dans ma liste.
Pas vrai?
Des fois, j'en débarque. Oh, non.
Je fais pas de liste, c'est bien trop dangereux.
Non, moi, je mets plein d'affaires dans le panier. Ça me fait juste j'en débarque, mais je me rends pas aussi haut que ça. Puis il y a des moments, à un moment donné, c'est comme « OK, je suis rendu là ». Puis j'avais réussi à me désintoxiquer pendant presque un an.
Mais c'est le go-to.
Je suis retombée dedans.
Hein. Moi, j'ai besoin de quelque chose. Le premier réflexe avant de sortir de chez nous, c'est d'ouvrir le téléphone puis de faire la recherche sur Amazon. Mais moi, c'est le go-to à ça. Regarde, on a une multiprise qui fait un drôle de son.
Ouais.
On l'a débranché. On en a commandé deux, puis c'est là qu'on est allé. Tu sais, tout de suite, le réflexe, c'est ça.
Moi, je suis encore une fille de magasin. Souvent, je vais prendre le temps d'aller voir sur les applications des différents commerces si le produit que je recherche est disponible sur place.
Moi aussi, j'ai ça encore.
Parce que, tu sais, j'aime encore l'instantanéité de « j'ai besoin de telle affaire, je vais y aller quand même assez vite, puis je me suis fait pogner en fin de semaine. » C'est niaiseux, là. J'ai besoin d'une ampoule pour mon congélateur. C'est plate de main. Tu te déplaces en magasin, tu l'as pas l'osto d'ampoule. Non, il n'était pas là l'osto d'ampoule.
Oh boy.
Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé dans mon panier. J'ai fait « Ah, je vais rajouter une ampoule. » J'ai fait une maudite commande.
Ben oui, puis t'es là une journée.
Oui, c'est ça. Puis à un moment donné, là, quand ça fait trois fois que tu checkes pour des affaires puis qu'ils n'en ont pas en inventaire,
ben,
qu'est-ce que tu vas faire?
Gosse.
Tu vas sauter l'étape. Moi, je suis rendu là.
Puis plus ça va aller, plus ça va être ça parce que ça coûte tellement cher de loyer que les entreprises qui ont pignon sur rue vont diminuer ce qu'ils vont avoir de disponible sur place pour nous inciter à faire de la commande en ligne. Mais ça, il va falloir que ça rentre dans nos habitudes de faire affaire ailleurs que sur l'application d'Amazon. Fait que c'est un foutu beau défi pour le commerce de détail pour les prochaines années.
Hey, si on regarde les nouvelles importantes de ce jeudi 19 février, Véro.
Le Canada a perdu une médaille d'argent.
Oui, je pense que ça, rendu là, tout le monde est pas mal au courant. Là. Ça a eu défaite crève-cœur en prolongation face aux Américaines.
Ça n'a pas été un gros après-midi d'actualité. Il y a Radio-Canada qui a appris que les employés de la technique du centre Vidéotron, ils sont plus de 200 qui se sont dotés d'un mandat de grève. Il n'y aurait aucune date de débrayage qui sera encore annoncée. Il y a toujours des négociations, semble-t-il. Une rencontre syndicale qui est prévue vendredi. Puis si, mettons, on décide de voter des journées de débrayage, ça pourrait ressembler à quoi? Technique, ça rentre au train, l'éclairagiste que le sonorisateur. Puis c'est pas comme cette année, on avait beaucoup de spectacles au centre Vidéotron. Là. Selon les informations que Radio-Canada a eues, ce serait entre autres les hausses salariales et les avantages sociaux qui feraient qu'actuellement, on brette dans cette négociation-là. Je vous rappelle aussi les chiffres que le journal a réussi à avoir par rapport au gars qui a foncé dans la centrale de police, la toute nouvelle centrale de police sur Louis XIV au mois de novembre dernier, alors que lui a réussi à rentrer à travers le grillage qui donne accès au stationnement, a réussi à encastrer son char dans une des réceptions de la centrale de police. Ça aura coûté plus de 37 000 $ en réparation pour ce qui est de la façade et de la guérite.
Je le chargerais à ce gars-là.
Bien, c'est un peu ça. La ville est en train de décider si oui ou non on va demander un remboursement des frais aux suspects dans cette affaire-là.
Envoyez la facture.
Là, la semaine prochaine, lui revient en cours parce que quand il a été arrêté, puis Olivier Jobin, 32 ans, le tribunal qui a demandé une évaluation de ses responsabilités criminelles pour troubles mentaux, fait qu'on devrait avoir ce rapport-là.
J'étais pas moi-même. Ouais, moi non plus, après trois bières, j'étais pas moi-même quand j'ai commandé un chandail des Bruins à 250$ US avec les frais de shipping.
Tu n'as pas fait ça récemment?
Pas récemment, non. Okay. Ah, je suis rendu...
C'est la pause olympique qui t'aide?
Je suis rendu Matza.
C'est ton 48 ans, là?
Oui, je suis vraiment rendu Matza.
Not.
Non, tu crées pas à ça?
Moi, je pense que ça prend une coupe de victoires de suite des Bruins pour que ça reparte, qu'il n'y a pas trop de problèmes.
S'il avait fallu que Pasternak batte le Canada, j'avais déjà des idées.
Ben, je vous rappelle aussi que la communauté métropolitaine de Québec et celle de Montréal ont décidé de s'associer puis de faire ensemble une résolution, adopter carrément une résolution commune pour mettre de la pression sur le gouvernement pour qu'on décide de donner une fameuse clause grand-père, une clause de droit acquis sur le programme de l'expérience québécoise qui arrive à sa fin puis qui fait qu'il y a des immigrants temporaires qui ont des jobs qui devront quitter le pays.
Je trouve ça intelligent, ça.
De faire affaire ensemble,
ouais,
tout à fait d'accord.
Vraiment.
Reste à voir si ça aura un impact. Actuellement, le gouvernement a plus l'air à se chicaner à l'intérieur du parti qu'à vouloir gérer une province.
J'ai l'impression qu'on a plus de dossiers en désaccord que de dossiers en commun avec Montréal. Mais mettons qu'on fait le tour pour s'amuser. Là. Ça marche de faire front commun là, pour ce dossier-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'itinérance.
Oui.
Le logement social.
Ouais. Les travaux.
Les infrastructures, il y a peut-être moyen de se mobiliser là-dessus aussi pour avoir...
Oui, c'est tellement géographique, je
ne
sais pas. Hein?
Oui, puis encore une fois, Montréal n'a pas de misère à avoir son financement pour les infrastructures. Puis ici, à chaque fois qu'on demande de l'argent pour une infrastructure, ça devient un débat de société de 15 ans.
Dans le transport en commun, faire des acquisitions, ça, je vais le répéter, je ne sais pas combien de fois... Tu sais, d'avoir des PayPass pour rentrer dans les autobus, là,
oui.
Au lieu d'avoir des affaires compliquées, achetez-en donc une shitload pour toute la province au complet, pour tous les services de transport en commun.
C'est facile quand tu vas ailleurs.
C'est incroyable, Denis. Ça me fait capoter. Chaque fois que je reviens ici, je me dis, mais on est donc bien cave.
Puis t'as raison. Ton PayPass devrait être provincial.
Ah, absolument.
Et t'as donné le droit.
En Angleterre, c'est ça.
T'as donné le droit de rentrer dans n'importe quel service de transport en commun de la province, que tu sois à Montréal pour le métro, à Québec pour l'autobus, au Saguenay en vacances, whatever.
En Angleterre, j'ai été capable de faire autant le bus deux étages que le métro. Que le train. Je suis sortie de Londres, je me suis rendue jusqu'à Brighton. Les tarifs changent puisque tu repasses ton téléphone en sortant quand c'est le train.
Ouais.
Mais c'est extraordinaire. Comme touriste, t'as zéro à te casser la tête. T'as pas besoin de te dire, j'achète ça où, un billet? C'est quoi l'application que je dois utiliser?
Imagine-toi comment ça serait facile à vendre. Il y a les gens, il y a des gens qui veulent adopter les bons comportements de société. À partir du moment où tu dis tu peux embarquer dans n'importe quel service de transport en commun de la province avec ton téléphone et rien d'autre.
Comme ailleurs dans le monde.
Ben là,
au lieu de faire des projets pilotes à semaine, un petit peu partout.
Je te rappelle qu'on a un gouvernement qui n'est pas capable de faire une mise à jour de ses logiciels informatiques sans que ça coûte un milliard.
Oui, mais cette technologie-là existe. Achetez-la, un clé en main. Non.
Éric Kaff a dit qu'il est très intéressé à la développer.
Non!
Non, ça ne te tente pas.
Non, il peut rester loin de la technologie.
Est-ce qu'un jour...
Hein?
Non.
Quoi?
Ben non.
Ah! Non?
Ben non, voyons.
Non?
Ben voyons, ben non.
Non, OK. Non,
oh, c'est ça... comment j'ai reculé le truc avant même de rentrer le parking.
Hey, ça a été long avec j'allume.
Hey! Ouais, ça met d'autres mondes dans le trouble.
Qui?
Hein?
Ça met pas personne
ben
dans
oui,
le trouble.
Ça met du monde dans le trouble, voyons.
Mais non.
Ben oui.
Mais non, mais c'était tout du monde consentant puis vacciné.
Hey, avez-vous vu le ciel, comment il était beau tantôt?
Ça va-tu?
Quand je...
Là, elle essaye de te sauver le cul. Là.
C'est pas mon cul qui a besoin d'être sauvé.
Ah, là, le tien est rendu de bonne main.
Ouais, c'est pas le tien qui doit être sauvé, puis le cul d'Erika, ça fait longtemps qu'il est brûlé, bord en bord. on racontera jamais ça. OK. C'est malheureux. Sondage de la banque CIBC qui nous place un âge précis, en fait, deux âges précis. L'âge où on commence à épargner pour notre retraite et l'âge où on voudrait prendre notre retraite. Puis là, il y a une nuance importante, parce que la plupart des gens qui visent cette année-là précisément pour prendre leur retraite, il y a une grande part des sondés qui ne pensent pas être capables d'y arriver.
Oh mon Dieu.
À partir de quel an, en moyenne, on économise pour nos retraites?
Qu'on le fait
ou
qu'on devrait le faire?
Qu'on le fait.
Moi, je pense qu'on le fait quelque part dans la trentaine.
Moi aussi, j'ai l'impression.
C'est 30 ans, précisément, qu'on commence à épargner pour notre retraite en moyenne. On parle des Canadiens là, qui ont été sondés. Et l'âge de la retraite, à une certaine époque, c'était liberté 55. On est rendu à liberté combien, d'après vous autres?
70?
On doit être pas loin de ça. On doit être rendu à 67-68.
C'est 61.
Oh, hein? Ouais.
Les gens rêvent.
Ah, oh, ils rêvent de ça. Mais
envisagent ouais, de prendre leur retraite à 61 ans et gardent le cap sur leur stratégie financière à long terme. Mais il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas être en mesure d'y arriver. Si on y va génération par génération, puis à chaque fois que je regarde ces générations